autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour cultiver ensemble notre jardin, faire germer et fructifier nos ressources intérieures indispensables en ces temps incertains et troublés. Mais comment ? Malgré ou plutôt avec tout ce qui nous arrive. Comment cultiver la joie de vivre? Comment moins souffrir et moins faire souffrir les autres? Comment nous reconnecter à nous-mêmes comme aux autres et à ce qui nous importe vraiment? C'est un véritable entraînement pratique à la sérénité et à la sagesse que nous propose le philosophe Alexandre Jolien et le moine bouddhiste Mathieu Ricard, nos invités, avec le psychiatre Christophe André. Ces trois amis de cœur et de plume viennent de publié l'abécédaire de la sagesse aux éditions Alary, de A comme angoisse à Z comme zen, en passant par I comme interdépendance, autour de la question est-il possible de devenir un peu plus sage. Bienvenue pour nous y entraîner en commençant par une définition inspirante de la sagesse transmise par le philosophe et historien de l'Antiquité Pierre Hadot.
Celle de Sénèque, justement, oui. Se plonger totalement dans le monde. En latin, totis et inserens mundo, c'est-à-dire se mêlant totalement au monde, à l'univers. D'arriver à essayer d'avoir un point de vue, une conscience cosmique, si on peut dire, une conscience qui se situe à un niveau universel.
Se plonger totalement dans le monde. Tiens donc, la voix du regretté Pierre Hadot, citant Sénèque, une sacrée ouverture pour nous que l'on vous doit. Merci Alexandre Jolien, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct par voie numérique avec nous depuis la Suisse où vous résidez, Alexandre. Vous êtes philosophe, auteur entre autres de L'éloge de la faiblesse, du petit traité de l'abandon et de Vivre sans pourquoi, ce qui explique peut-être pourquoi dans vos maîtres en sagesse, on compte aussi bien les regrettés Pierre Hadot ou Laurent Gerfagnon, les stoïciens, que le maître tibétain Chogyam Trungpa ou le maître zen Shunryu Suzuki. Le philosophe que vous êtes, Alexandre Jolien, fait feu de tout bois pour s'entraîner à la sagesse, vous le diriez comme ça?
Oui, je suis très touché quand commence par cette citation de Sénèque qui montre bien que la sagesse, c'est pas vivre planqué dans un coin, se retrancher du monde, mais s'insérer totalement dans un monde et je pense que d'emblée, on peut tordre le cou à l'individualisme qui est une gangrène de la société et montrer que la sagesse, c'est au cœur de l'humanité. C'est avec l'autre, sous son regard, en sa compagnie. Et c'est pas un exercice solitaire ou retranché.
Voilà qui est dit et bien dit hein, sur les chemins de la sagesse ensemble, car vous avez beaucoup d'amis, notamment Alexandre Jolien, des amis très chers avec qui vous partagez, avec qui vous nous faites passer cette formidable quête de la sagesse. Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour.
Ça vous fait sourire, ça vous fait rire. Merci d'être en direct virtuel avec nous depuis la Dordogne. Hein. Vous êtes en ce moment, je rappelle que vous êtes moine bouddhiste et photographe après avoir été scientifique, tiens donc. Vous êtes aussi l'interprète français du Dalai Lama, dont vous êtes très proche. Auteur de nombreux ouvrages sur le sourire, l'art de la méditation, plaidoyer pour l'altruisme ou encore plaidoyer pour les animaux. Vous formez donc désormais Mathieu Ricard avec Alexandre Jolien et avec le psychiatre Christophe André, que l'on entendra tout à l'heure, un trio d'auteurs original, inspirant, qui nous montre, je ne sais pas si c'est la voie, ou plutôt les sentiers qui mènent à plus de sagesse, à plus de sérénité. Alexandre Jolien nous rappelait à l'instant qu'il ne s'agit pas de s'enfermer, hein, mais citant Sénèque avec Pierre Hadot, qu'il s'agit d'être dans le monde. La sagesse, c'est jamais gagné, même pour le moine bouddhiste que vous êtes, Mathieu Ricard.
La sagesse, bien sûr, c'est une quête permanente, mais comme disaient ces deux grands philosophes, moi je suis que finalement que la route se court dans tout ça. La sagesse, c'est aussi d'être en adéquation. Donc l'union avec l'univers, ça veut dire une adéquation avec la réalité. Parce que si constamment on est en porte-à-faux avec la réalité, qu'on pense que ce qui est impermanent et éphémère est permanent, si on pense qu'on est isolé alors que nous sommes fondamentalement interdépendants, la sagesse, une des facettes de la sagesse, c'est reconnaître la nature des choses, la nature des phénomènes, la façon dont fonctionne notre esprit. Et donc, c'est une sagesse qui a des conséquences très importantes. C'est pas seulement être assis dans un fauteuil à réfléchir à des idées qui planent au-dessus de la réalité, mais au contraire, d'être le plus proche possible de cette réalité, de sorte à pouvoir s'épanouir soi-même et aussi contribuer au bien-être de tous ceux qui nous entourent.
C'est d'autant plus essentiel, indispensable. Aujourd'hui, nous vivons des temps troublés différemment selon l'endroit où l'on se trouve sur le globe. Mais il y a la pandémie, il y a des attentats terroristes, il y a de nombreuses questions qui se posent. C'est vraiment des temps incertains, on est dans l'incertitude, on peut être dans le stress, on peut être dans l'angoisse. Comment est-ce qu'on fait justement pour cultiver la sagesse dans un monde aussi compliqué? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que vous pouvez nous aider là dans ce monde dans lequel on vit, ici et maintenant, hein, on est en direct, on est par téléphone à cause de la pandémie ou par des liaisons internet, ça peut couper. Comment on fait avec tout ça pour cultiver, vous le dites bien dans cet abécédaire de la sagesse, la joie, enfin voilà, il y a toute cette joie-là qu'il faut garder, faire fructifier. Comment on fait? Mathieu Ricard, Alexandre Jolias, c'est à vous.
Alors Alexandre, vas-y.
Allez Alexandre.
Eh bien, grâce à Mathieu, j'ai rencontré des disciples du grand maître Shogyal Trungpa et je leur ai posé un peu cette question. Comment résumer la pratique en deux concepts simples? Et ils m'ont dit d'abord devenir l'ami de soi-même, c'est-à-dire ne pas avoir peur de ce qu'on va rencontrer en soi, et dans le même temps, faire passer toujours l'autre avant soi. Et je pense que ces deux piliers hyper simples, enfin très compliqués à appliquer tous les jours, mais c'est personnellement deux pratiques qui m'aident. C'est-à-dire essayer, comme disait Mathieu, de s'ajuster à la réalité, pas prendre la poudre d'escampette dans l'imagination, dans les passions tristes. Et je suis frappé, pardon, de parler de l'actualité, mais la haine, aujourd'hui, si on n'est pas d'accord, je regarde comme tout le monde les élections, c'est plus des personne adversaire au niveau d'une opinion, ça devient l'ennemi. Et je pense, je reviens à l'individualisme parce que pour moi c'est le cancer de notre époque. Tout peut être récupéré par l'individualisme, même la spiritualité. Donc en deux mots, pour moi, la sagesse, c'est être le plus ancré dans le réel, en réel éphémère, comme disait Mathieu, et laisser une ouverture, ou plutôt faire péter la cloison pour se donner aux autres.
Magnifique, puis, Alexandre, Mathieu Ricard, à vous.
Oui, si je peux ajouter quelques éléments à ce que dit mon cher Alexandre, c'est que aussi, c'est pas seulement en sorte une vision un peu éthérée, c'est aussi une pratique, la sagesse, c'est-à-dire au jour le jour, devenir un meilleur être humain, se transformer soi-même pour mieux transformer le monde. Et donc, si quand on dit « oh, la sagesse, c'est un peu un luxe par les temps qui courent, on a bien d'autres chats à fouetter, des complications à régler », mais en fait, c'est la meilleure manière d'avoir un état, une manière d'être optimale qui nous permet justement de cultiver en nous les ressources intérieures nécessaires à faire face au haut et au bas de l'existence. Parce que sans sagesse, si on est toujours à déformer la réalité par nos surimpositions mentales, en pensant que ceci est 100% haïssable ou 100% désirable, etc., on va être éminemment dysfonctionnel. Donc la sagesse, c'est aussi la lucidité, c'est aussi, encore une fois, de savoir trouver en soi l'espace suffisant pour ne pas être le jouet de nos enchaînements de pensée, de nos émotions perturbatrices, de l'animosité, de l'obsession, de l'arrogance, de la jalousie, et qui obscurcissent notre esprit et le trouble, et qui faussent notre jugement. Donc tout ça, ça fait partie intégralement de la sagesse. C'est quelque chose d'extrêmement pragmatique que l'on peut utiliser au jour le jour, et d'autant plus en période de défis, de difficultés et de crises.
Au jour le jour, à l'instant même, ici et maintenant sur RFI, aller être ami avec soi-même, l'amitié, l'altruisme, la bienveillance aussi, ça, ça vous va comme un gant à tous les deux, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Avant de retrouver le troisième larron, hein, votre ami, le psychiatre Christophe André, autour de la question comment s'entraîner justement à la sagesse. On commence par s'entraîner à l'amitié sans frontières. Avec Brassens, l'Africain, la reprise par le Camerounais Denis Tchangou de votre chanson préférée de Brassens, Mathieu Ricard, Les copains d'abord. Les copains d'abord, Brassens, revisité par l'artiste camerounais Denis Tchangou. Moi, ça me met en joie. Je ne sais pas vous, Mathieu Ricard.
Ouais, c'est rigolo.
Autour de la question, comment s'entraîner à faire ami avec soi et avec les autres, à faire rentrer les autres, à ouvrir un peu, faire péter les murs hein, et la haine, comme le disait Alexandre Jolien, en votre précieuse compagnie. Donc Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Il manque, on l'a dit, le troisième larron, si j'ose dire, le troisième ami en quête de sagesse de votre trio, composé donc du moine, du philosophe et du médecin. C'est le psychiatre Christophe André, auteur entre autres de Imparfait, Libre et Heureux, et de Méditer jour après jour. Il ne pouvait pas se joindre à nous en direct. Mais je propose d'écouter son éclairage et son apport à votre abécédaire de la sagesse.
Vous savez, Mathieu, Alexandre ont dû vous le dire, vraiment, notre grande peur en écrivant ce livre, c'est qu'on puisse croire que nous nous prenons pour des sages. Hein, évidemment, ce qu'on décrit, c'est nos efforts vers la sagesse. Et à ce moment-là, oui, pour moi, médecin, je pense qu'il y a une façon de vivre notre quotidien, mais aussi de vivre donc la souffrance, la maladie, qui est peut-être plus sage que d'autres. Par exemple, pour revenir à notre abécédaire, j'ai écrit l'entrée maladie, puisque je suis le médecin du trio. Et je rappelle que dans la maladie, on a souvent tendance, que l'on soit patient ou médecin d'ailleurs, à utiliser un vocabulaire guerrier, se battre contre la maladie, faire la guerre au cancer et toutes ces choses-là. Bon, ça peut aider certaines personnes ou à certains moments, mais en réalité, c'est peut-être pas seulement ça qu'il faut faire dans la maladie. Dans la maladie, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Pacifier ses émotions de peur et de colère, travailler à sa paix intérieure, travailler à savourer aussi tout ce qui est à côté de la maladie, à ne pas l'oublier, à ne pas être obnubilé par la guerre, entre guillemets, à conduire, mais aussi par la vie qui continue et qui continue d'être savoureuse par moments. Mais je sais bien que lorsqu'on souffre, lorsqu'on est déprimé ou malade dans son corps très violemment, c'est compliqué tout ça, mais il me semble que cela relève d'une forme de sagesse, parce que vous savez, dans la sagesse, pas voir ça comme quelque chose d'inaccessible, réservé à quelques grands maîtres ou quelques grandes maîtresses, mais c'est un petit travail tout simple de lucidité, d'humilité, de curiosité, de bienveillance, de patience. La sagesse, c'est un mélange de tout un tas de petits traits, de petits efforts comme ça, accessibles à chacune et à chacun d'entre nous au quotidien.
Christophe André, dans cette abécédaire, pas si sage que ça, donc quel est le mot, je ne sais pas, l'entrée qui serait la plus chère à votre cœur d'apprentissage psychiatre?
Mais il y a une entrée de notre abécédaire que j'ai demandé à mes amis de me laisser, c'est l'entrée soupir. J'aime beaucoup la citation du poète Christian Bobin qui dit « Tout ce qu'on fait en soupirant est taché de néant ». Et elle nous dit beaucoup de choses, cette belle citation poétique, c'est-à-dire que souvent, nous nous gâchons l'instant présent en râlant, en soupirant, alors, il faut descendre la poubelle, il faut prendre le métro, il faut écouter un ami se plaindre, il faut. Et c'est un gâchis terrible, parce qu'en fait, même en descendant la poubelle, on est vivant. Nos jambes fonctionnent, on vit en démocratie, quand on aura descendu la poubelle, on remontera se mettre au chaud dans l'appartement. Et au fond, c'est vraiment important d'être attentif à cet état d'esprit avec lequel nous traversons les moments les plus anodins de notre journée. Et la sagesse, elle se niche souvent dans cette intelligence de vie qui consiste à ne considérer aucun moment de vie comme un moment gâché, et plutôt à se dire bah, « tu es vivant et tant que tu respires, c'est qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal dans ta vie ».
Qui veut réagir à cette intelligence de vie dont parle Christophe André, à cette sagesse qui se niche finalement dans chaque instant et dans les instants les plus anodins de nos vies? Mathieu Ricard?
Oui, en fait, anodin, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Si on est parfaitement serein, ouvert au monde, émerveillé dans la fraîcheur de l'instant présent, ça n'a rien d'anodin, c'est extrêmement profond. J'avais été frappé, moi, au moment de la première épisode du Covid, j'étais au Népal et quelques radios avaient réussi à me retrouver dans les montagnes. Et j'étais frappé par la difficulté que beaucoup de personnes, en dehors de ceux qui ont beaucoup souffert de la maladie, de la pauvreté et toutes sortes d'autres difficultés réelles, mais simplement le fait de se retrouver seul avec eux-mêmes et d'être très démuni, c'est pour quelqu'un qui passe pas mal de temps dans un ermitage tout seul face à la montagne, ça me paraissait curieux de pas profiter avec émerveillement de cette possibilité d'être avec son propre esprit, de s'unir par l'interdépendance à tous les êtres et de poursuivre ce chemin pour cultiver des qualités humaines fondamentales et devenir une meilleure personne.
Mais Mathieu Ricard, excusez-moi de vous interrompre, mais en même temps, quand on se retrouve, nous, dans nos vies agitées, d'un seul coup, seuls, face à nous-mêmes, il y a aussi des démons qui remontent. Hein. On peut citer aussi j'aime beaucoup cette citation de Nietzsche, « Pour devenir sage, apprends à écouter les chiens sauvages qui aboie au fond de ta cave. » Et j'ai l'impression que quand on s'arrête, justement, on entend beaucoup les chiens sauvages ou les chiens angoissés qui aboient au fond de notre cave.
Alors, je vais laisser le spécialiste de Nietzsche,
Alexandre Joliat.
Oui, mais la phrase de Bobin qui est magnifique, c'est pas une injonction à ne pas soupirer, parce qu'on peut soupirer de soupirer. Moi, je peux dire humblement que je soupire de plus en plus dans une vie d'une personne handicapée, par exemple. il est mille occasions de soupirer. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans une orthopédie de l'âme, s'interdire la plainte, s'interdire tout soupir. L'exercice, si je puis dire, c'est pas de rajouter du soupir au soupir. Mmh. Voilà, ce matin, je soupire, ce matin, j'ai des douleurs chroniques, le regard d'autrui me rabaisse, j'accueille ce soupir. Et moi, je me méfie d'une sagesse qui met les gens sur la touche et qui court après un idéal. La citation de Nietzsche sur la cave, elle est très belle. Elle veut dire précisément qu'il s'agit de se pacifier, et c'est ce qu'a dit merveilleusement Christophe. On a tellement un langage guerrier dès qu'il s'agit de maladie ou d'adversité, et ça complique encore les choses. Donc accueillir les chiens sauvages qui sont à la cave, c'est dire, voilà, la sagesse, on peut la glaner avec les forces du jour. Certains jours, je suis complètement à plat, j'ai besoin d'un coup de main pour eux, parce que une sagesse solitaire me paraît dangereuse. Moi, je ne crois pas du tout au self-made man ou à la self-made woman. C'est personnellement, je ne suis pas à la hauteur de Mathieu qui incarne dans sa vie la solidarité à tout moment. Mais j'ai cette intuition que sans l'autre, sans des coups de main, on ne s'en sort pas.
C'est vraiment, Alexandre Jolien, j'arrive très vite aux aides de votre abécédaire, mais quand vous parlez du zen, Alexandre Jolien, je trouve ça magnifique, parce que c'est pas d'être zen, entre guillemets, c'est pas ça, c'est épouser le réel, c'est-à-dire ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qui se passe, ce qui va mal, nos chiens sauvages, nos angoisses, nos moments de grande joie, c'est comme vous dites, c'est pas se battre contre, quoi. C'est dire ok, je suis avec.
J'ai trop vécu l'acceptation comme quelque chose de forcé. Mmh. J'ai vécu dans une institution pendant 17 ans où on nous forçait à accepter la maltraitance, en un mot. Mmh. Et je pense que l'acceptation, le dire oui, l'amour fatigue, comme dirait le Tchernitch, c'est tout sauf de la résignation. Quand quelqu'un souffre, il faut se mobiliser pour... Sinon, l'acceptation, ça ressemble à une poignée de cailloux qu'on jette sur la figure à quelqu'un qui souffre. L'acceptation, ça ouvre, ça justifie pas l'injustice. Au contraire, ça prend appui, comme disait Mathieu avant, sur le réel, pour s'engager corps et âme envers l'autre.
Merci à tous les deux d'être là avec nous ici et maintenant, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Mathieu, vous nous avez fait un cadeau, hein. Ce n'est qu'un des nombreux cadeaux que vous nous faites en ce moment, à partager évidemment avec vous tous et toutes, chers amis auditeurs et auditrices. C'est un mantra de Tara, chanté par Choing Drolma, j'espère que je prononce bien.
Tout à fait.
On l'écoute d'abord, tout simplement, et vous nous en direz plus après, Mathieu Ricard.
Tore na wa nam le tu tu ma yum la cha ce lo om ta ri tu re sa om ta ri tu re sa om ta ri tu re sa. Om ko ale tu tare ma tu tara i ji gu se tu re na wa nam le tu du ma yum la cha ce lo om ta re tu tare tu re swa om ta re tu tare tu re swa.
Merci Mathieu Ricard pour ce magnifique mantra de taré qui me laisse sans voix, dans la voix magnifique de Choeng Drolma sur RFI.
Oui.
Qu'est-ce donc ?
Eh bien, c'est le mantra de Tara qui a fait vœu de renaître sous une forme féminine jusqu'à ce qu'elle devienne Bouddha. Et Choeng Drolma aussi, comme nous, est très impliqué dans des actions humanitaires au Népal. Moi-même, nous avons fondé une association qui s'appelle Karuna Sechen, qui aide 300 000 personnes par an en Inde, au Népal et au Tibet, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux. Donc c'est une amie de cœur, elle a une voix absolument cristalline et merveilleuse.
Sublime, en tout cas, ça réconforte, ça console. Vous croyez d'ailleurs tous les deux, tous les trois, hein, avec Christophe André, Alexandre Jolien et vous-même, Mathieu Ricard, hein, qui avez co-écrit ensemble à six mains cet abécédaire de la sagesse, vous croyez au pouvoir réconfortant de la sagesse, hein, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et quelle que soit la tradition, pas besoin d'être bouddhiste pour apprécier un chant de mantra, ni pour apprécier les philosophes stoïciens, ni un grand sage africain.
Oui, parce que la sagesse, c'est pas quelque chose qui est isolé dans son coin. Elle vient avec une constellation d'autres qualités. On ne peut pas être sage et égoïste, on ne peut pas être sage et jaloux, on ne peut pas être sage et arrogant, on ne peut pas être sage et malveillant. Donc tout ça va ensemble. Et aussi quand Alexandre parlait de l'acceptation, je pense à une amie que nous avons tous les trois, qui est ma sœur Evrika, qui a écrit un magnifique livre, Une étoile qui danse sur le chaos, sur 30 ans de sa maladie de Parkinson. Et pour elle, l'acceptation de cette maladie pour laquelle elle ne peut rien, comme le handicap, c'est de ne pas s'identifier entièrement à cela. Elle a la Parkinson, mais elle n'est pas la Parkinson. Et donc de ce fait, elle garde cet espace de liberté pour pouvoir encore une fois, s'épanouir dans l'existence en dépit de tous les défis incroyables auxquels elle doit faire face.
Oui, liberté intérieure, et on retrouve aussi la sagesse cosmique, hein, se relier tous ensemble, cette sagesse, cet apprentissage, cet entraînement à la sagesse. Vous l'avez dit, hein, il se retrouve partout, dans toutes les plus belles traditions, philosophies du monde, dans notre humanité, hein, dans ce qu'elle a de meilleur en tout cas. Il y a heureusement des sages partout, parfois même certains qui ne savent pas qu'ils sont sages, mais qui le vivent, à l'image de Maram Kéré, que nos auditeurs au Sénégal connaissent bien. Maram Kéré est ingénieur astronome, président de l'APSA, l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal, dans laquelle il s'est engagé cœur, corps et âme dans la transmission du savoir astronomique, mais aussi du simple bonheur de regarder les étoiles et de vivre sous le même ciel. Écoutons l'éclairage éclairant, c'est le cas de le dire, de Maram Kéré sur la sagesse sous le ciel de Dakar.
Ça me rappelle un proverbe africain, en fait, qui dit que le sage peut être assis et voir des choses, en fait, que le jeune qui est debout ne peut pas voir. Et si on essaie de décortiquer, en fait, ça veut tout simplement dire qu'avec le recul qu'on a avec ce qu'on appelle sur le continent cette sagesse, en fait, on peut anticiper sur des difficultés, sur des problèmes que le jeune qui, dans sa fougue, ne peut pas voir. Et quand on regarde aujourd'hui dans le domaine de l'astronomie, par exemple, être sage, je pense que c'est tout simplement c'est la personne qui prend la peine en fait d'observer le ciel, qui prend la peine de se poser des questions et qui prend la peine également d'essayer d'apporter des réponses quand il lève les yeux vers le ciel. Et c'est ce que fait aujourd'hui le sage qui est sous son arbre, schématiquement en train de regarder le ciel dans son coin du village, par exemple. Ça nous appelle à beaucoup plus de méditation, beaucoup plus de recul et beaucoup plus même de tentative à trouver notre harmonie par rapport à cet ensemble dont on fait partie, ce ciel dont on fait partie, et savoir que nous sommes donc sur un vaisseau, dans un ciel qui est commun à tout le monde, et c'est peut-être le sage qui aura suffisamment de recul pour pouvoir anticiper sur son évolution. Et je pense que c'est une réflexion qui mérite effectivement d'être méditée. La sagesse, c'est quelque chose qui est omniprésente sur les textes, sur le continent africain. Et ça se vérifie également, je pense, que quand on parle de sages qui peuvent voir plus loin que les jeunes qui est debout, ça se vérifie également sous cet aspect.
Merci, Maram Kéré. Comment ça se dit ? C'est en Wolof, cette phrase ou...
Oui, Mak Dina Tog Digis Khale Tahaou Gelem. Alors, c'est une phrase assez longue, mais voilà. Mak Dina Tog Digis Khale Tahaou Gelem.
Et oui, quand un vieux sage assis voit plus loin qu'un jeune debout, un grand merci à Maram Kéré pour cette citation. En Wolof, est-ce que ça vous inspire, Alexandre Jolien ?
Ah oui, plus que ça. Et ça rejoint l'étymologie de sagesse qui est la sapience. Mmh. Il y a une saveur aux choses. Et c'est magnifique. D'ailleurs, un zazen, on est assis ou couché pour ceux qui n'arrivent pas. Et chargé de perspective par rapport aux choses, entraîner son esprit pour se décentrer,
oui. Sortir un petit peu de son petit moi. On va dire qu'on a une question d'un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux qui vient à point là autour de ce que vient de dire Maram Kéré. Une question pour vous deux, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Est-ce qu'il existe un lien entre l'âge et la sagesse?
Faut espérer.
Faut espérer, là, je suis d'accord avec vous.
Vu l'âge auquel nous arrivons tout doucement, alors certainement que l'expérience de la vie, elle nous apprend beaucoup de choses. Ceci dit, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait de notre existence. Est-ce que il y a rien de plus tragique que de voir des personnes très âgées qui sont encore là à spéculer sur des gains potentiels, à être préoccupées par leur renommée, à être préoccupées par toutes sortes de choses, à essayer de rester jeune à tout prix. Et voilà. Mais enfin, en général, l'expérience nous apprend beaucoup de choses. Et je sais, par exemple, en Amazonie, une des raisons pour laquelle on respecte les personnes âgées, c'est qu'elles ont eu la sagesse de savoir comment survivre, déjà jusqu'à cet âge-là.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, c'est sûr que... en Orient, où souvent les sages sont des personnes âgées, ils sont très choqués de voir comment on, par exemple, en Europe, parce que souvent on n'a pas la possibilité de s'occuper, les générations ne vivent plus ensemble comme auparavant, de mettre des personnes âgées dans des endroits spéciaux et non pas au sein de la famille, parce que généralement c'est les personnes les plus respectées qui apprennent cet élément de sagesse aux petits-enfants, et donc ça, c'est quelque chose qui est très précieux.
La sagesse, c'est évidemment aussi, et ça j'ai envie de vous entendre Alexandre Jolien là-dessus, ça ne veut pas dire être sage, et sûrement pas être sage comme une image, hein, on est d'accord.
Non, et Mathieu, c'est mieux que moi, mais il y a toute une tradition de sages qui sont non conventionnels. Alors ça, il faut se méfier, c'est pas à nous à dire je suis un sage non conventionnel,
donc je fais
n'importe quoi, et ça peut donner le pire. Mais tout ça pour dire... oui, je dirais simplement, c'est pas à nous de juger, je suis sage, voilà, je suis établi. Mais il y a, la sagesse, elle n'est pas une régulation sociale. On n'est pas sage pour faire comme il faut, on est sage pour se donner aux autres corps et âme.
pour se donner aux autres. Hein. Vous revenez constamment là-dessus, et on retrouve aussi évidemment Mathieu Ricard là-dessus. Mathieu Ricard, même quand on n'est pas moine, parce que moine c'est aussi décider de donner sa vie aux autres, même quand on n'est pas moine, on peut dans une vie quotidienne faire le choix d'être le plus proche des autres possible, le plus proche de soi et des autres possible, c'est ça en fait.
Ben heureusement qu'il n'y a pas besoin d'être moine pour ça, il suffit d'avoir un grand cœur. Ah, ça c'est sûr, non mais c'est évident. Et non seulement ça, mais c'est pas qu'on peut, c'est que sans ça, la vie n'a plus de goût. Je veux dire, si vous êtes, si c'est ce sentiment exacerbé de l'importance de soi et que vous êtes toute la journée, Alexandre Jolien, dit, mon ami Alexandre dit souvent que ça sent renfermé dans la bulle de l'ego. Je veux dire, on se rend la vie misérable, on la rend misérable à tout le monde. L'altruisme est de loin la meilleure façon de faire le double accomplissement du bien d'autrui et d'une autre. Il n'y a pas photo dans ce domaine-là.
Mais comment faire justement quand qu'on ne consacre pas sa vie à la méditation ni au don des autres? Comment faire? Alors je ne sais pas si c'est à vous Mathieu qu'il faut poser la question ou à vous Alexandre, mais comment faire au quotidien? Vous dites bien que c'est un entraînement, vous dites bien qu'il faut accepter l'état d'esprit dans lequel on est.
Juste pour commencer un petit mot, oui. La bienveillance, il n'y a pas besoin de... C'est pas compliqué, c'est vraiment aucune... C'est simplement n'exclure personne de son cœur et a priori, elle pouvait penser quand on rencontre qui que ce soit, puisse cette personne être heureuse et trouver les causes du bonheur, puisse cette personne être séparée de la souffrance et de ses causes, ça n'a strictement rien de compliqué et on peut parfaitement appliquer ça à chaque instant de l'existence. Et ça marche d'autant mieux si cette personne est un petit peu agressive, indifférente. C'est le meilleur moyen de dégeler ces murs de distance, d'oppression, de sentiment de supériorité, de mépris. C'est par la bienveillance. C'est la meilleure façon, la meilleure stratégie, quoi qu'il arrive.
La meilleure stratégie, quoi qu'il arrive, la bienveillance. Hein, autour de la question, comment cultiver la sagesse? Allez, cultivons la bienveillance. Vous avez choisi, Alexandre, ça ne m'étonne pas du tout de vous, un morceau, pas très sage, mais qui résonne et sonne particulièrement à nos oreilles. Ce sont les Rita Mitsuko que vous aimez bien. Ding, ding, dong. Ce n'est pas la cloche ou le gong du monastère. Et pourtant, ça marche aussi.
Se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un confrère par la fenêtre ouverte. J'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. La lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tend fort, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
La belle heure pour s'aimer avec les Rita Mitsuko sur RFI. Alexandre Jolien, vous aimez les Rita Mitsuko, comme quoi la quête de sagesse et la quête de rythme, ça va bien ensemble. Vous aimez aussi l'électro, je crois.
Oui, mais ça trahit mon passé. Mes parents écoutaient la musique populaire et je pensais en écoutant cette magnifique chanson que la sagesse, c'est aussi un gai savoir, c'est-à-dire repérer ce qui nous met en joie. Alors, ça peut être une musique selon sa culture, son bagage et ses goûts. Mais c'est la question de Spinoza, qu'est-ce qui nous met véritablement et durablement en joie? Et la sagesse, c'est d'ancrer ces dimensions dans le quotidien, oui.
Ah oui, qu'est-ce qui nous met en joie? Une joie, chercher cette joie-là, et ça serait un bon indice. On disait qu'on ne peut pas se déclarer sage, mais finalement, pour approcher dans cette quête de sagesse, de bienveillance, la bienveillance aussi, finalement, ça nous met en joie, Mathieu Ricard.
Ah ben certainement, c'est la meilleure façon. Je connais pas aucun égoïste qui a laissé son égoïsme, qui a donné libre cours à son égoïsme, qui est en joie, sauf une joie sadique d'avoir fait du tort à autrui. Enfin, ça, n'en parlons pas. Mais une vraie joie, c'est aussi d'être en adéquation avec soi-même. Mmh. Et adéquation avec soi-même, ça veut dire au plus profond de soi. Quand on est en colère ou quand on a fait un acte un peu de méchanceté, on dit souvent « j'étais hors de moi, je n'étais plus moi-même ». Donc on reconnaît bien que ce qu'il y a de plus fondamental en nous, c'est davantage la bienveillance que l'animosité.
La bienveillance, la joie, le plaisir, le bonheur envers et malgré tout. Finalement, parfois, on se dit que c'est presque un combat, une résistance. En tout cas, ce n'est pas le chemin le plus facile non plus, mais c'est celui qui peut un peu peut-être nous rendre heureux, restons modestes, même si on aurait envie de vous voir rayonner plus loin, plus grand encore sur notre monde. C'est tout le sens de la question soulevée par un autre chercheur en quête de sagesse et qui vous est adressée, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, le psychothérapeute et auteur belge Thomas Dansembourg, qui était récemment notre invité.
Bonjour Mathieu et Alexandre. J'aimerais vous demander comment arriver à rendre contagieux l'état de sagesse que nous tentons de développer en nous-mêmes, en sorte de petit à petit toucher les personnes qui ont les manettes du pouvoir, qui ont la capacité à faire changer les choses. Comment être de plus en plus contagieux de cette sagesse qui n'est jamais acquise, sans doute, mais que nous travaillons à nourrir de plus en plus en nous.
Avez-vous des pistes pour répondre à cette question de Thomas Dansembourg? Comment être contagieux? Comment pouvez-vous être contagieux avec votre pratique de la sagesse? Mathieu Ricard, Alexandre Jolien.
Et Alexandre, vas-y.
Alexandre. Comment ça...
Malheureusement, ensuite, il y a eu une histoire tragique d'une jeune fille de 13 ans qui était harcelée par des réseaux sociaux et qui a fini par se donner la mort. Et en plus, c'est un crime qui n'est même pas reconnu par la loi. Mais ce qui m'a beaucoup bouleversé, c'est que cette famille n'était pas dans la haine, dans l'aigreur, mais dans l'engagement. Ils voulaient ils sont mobilisés pour sensibiliser. Et je dis ça parce que les réseaux sociaux, ça peut être la pire des saloperies, mais ça peut aussi servir à convertir les regards. Et je pense qu'il y a une responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux façonnent notre vision du monde. Hélas, l'âme humaine étant ce qu'elle est, on a montré qu'on est plus attiré par les mauvaises nouvelles, par la colère, par la haine. Et je pense que le premier boule, une des priorités des politiques, ça serait de revisiter cet instrument pour que jamais la haine ne se répande. Voilà.
Ah oui, vous avez raison, Alexandre Jolien, de nous rappeler à ça avec cet exemple troublant qui est survenu en Suisse. Mathieu Ricard.
Oui, ben je crois qu'aussi, ce qui est très important, c'est la cohérence, c'est-à-dire la qualité de la présence de quelqu'un. C'est la meilleure façon d'être contagieux d'un certain point de vue. Parce que quelqu'un qui vous prêche des très belles choses, mais qui est tout le contraire de ce qu'il dit, eh ben c'est pas très inspirant. Et moi, personnellement, avoir côtoyé des sages et des grands maîtres spirituels, très souvent, le simple fait de partager leur compagnie pendant quelques moments, j'ai vu ça avec le Dalai Lama, des gens qui venaient, arrivaient parfois un peu cyniques, un peu agressifs, et rien que le fait de passer 10 minutes à une conversation très simple avec cette personne, ça fait venir le meilleur de vous-même à la surface. Donc c'est contagieux de cette façon-là. Et je me rappelle quand j'avais fait le moine de philosophe, on m'avait dit « Avec qui voudriez-vous passer 24 heures ?» Seul à seul, j'avais dit à ce moment-là, Saddam Hussein, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'en restant avec lui 24 heures, ça pourrait déteindre un petit peu. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres candidats de ce point de vue-là.
Oui, ça, ça
mais il y a aussi
pas,
des expériences qui ont été faites en recherche psychologique, où quand quelqu'un fait un acte de générosité, un acte de gentillesse, on sait que ça se répercute à 3 ou 4 degrés de séparation. C'est-à-dire celui que, pour le, envers lequel vous avez donné cet acte de gentillesse sera plus bien mieux disposé à l'égard d'une autre personne et ainsi de suite.
Donc c'est effectivement contagieux. En fait, c'est ce que vous dites, hein, je vous écoute vraiment, je suis toute oui au long de cette heure. Et quand je vous écoute, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, quand j'ai entendu Christophe André, c'est vraiment une question de cohérence, de faire ami avec soi-même, de faire ami avec les autres, d'accepter. Il y a quelque chose dans le lien qui est extrêmement fort, alors qu'on a tendance à penser à la sagesse, à la méditation dans son petit coin. C'est vraiment en ouverture avec les autres et on peut... Ben on peut diffuser la haine, mais on peut aussi diffuser autre chose, infuser et diffuser autre chose. C'est ça que vous nous dites, au fond.
Ah ben ça, c'est clair. Hein, on peut... Si constamment le message est clair et n'est pas mélangé d'un agenda caché qui vise à promouvoir nos intérêts à court ou à long terme, mais qu'on est sincèrement, profondément généreux et ouvert à autrui, naturellement, c'est quelque chose qui se ressent. On ne peut pas mentir dans cette authenticité.
Alexandre Jolien, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin, parce qu'à chaque fois, vous me scotchez. C'est à vous, Alexandre, ce que vous voulez autour de la sagesse ou de ce que vous voulez.
Justement, l'association qu'a créée Mathieu s'appelle la Karuna. Et la Karuna, c'est la compassion, mais pas au sens mièvre, mais vraiment le don de soi. Et quelqu'un de très avisé a fait le jeu de mots en disant que contre le coronavirus, il fallait offrir le carunavirus, c'est-à-dire la générosité, c'est-à-dire les coups de main, c'est-à-dire l'écoute, c'est-à-dire les mains tendues. Et on peut faire tout ça en impliquant les gestes barrières. Alors je dirais, en mot de la fin, moins de coronavirus et vraiment le coronavirus qui est contagieux, comme disait Mathieu.
Ah oui, Karuna, virus, la compassion. Merci infiniment à vous deux. Merci pour cette compassion, pour ces inspirations, ces aspirations, pour tous ces jolis cailloux que vous nous passez sur le chemin de la sagesse, que vous semez avec vos mots, avec vos ouvrages. Je rappelle le titre de votre dernier opus, l'abécédaire de la sagesse, à mettre entre toutes les mains, dans tous les cœurs, qui vient de paraître chez l'Iconoclaste, Alary Édition. Et puis je cite tout de même vos deux derniers ouvrages. Alors Mathieu Ricard, c'est Plaidoyer pour les animaux. Alexandre Jolien, Vivre sans pourquoi. Et on se retrouve bientôt, en vrai, hein, pour qu'on puisse se toucher en vrai. Merci beaucoup Mathieu Ricard, merci beaucoup. Merci. Alexandre Jolien.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous le savez, chers amis auditrices et auditeurs, vous pouvez nous réécouter, nous podcaster à volonté sur toutes vos applications. Et puis on se retrouve demain, si vous le voulez bien, autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, en compagnie de nos consoeurs et confrères de la pièce presse scientifique, avec comme chaque mois des magazines à vous offrir, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci pour votre écoute, surtout restez curieux, restez en lien, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à l'écoute de RFI, bientôt l'heure de retrouver les informations.